Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence. Soyez les bienvenus, bonjour à toutes et à tous. Présence midi, dernier présence midi de cette année 2025. Nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner avec dans un instant notre invité, c'est Bernard Letu. C'est le directeur de la maison d'édition Échua. Bernard Letu nous présentera les différents ouvrages sur la vie de Claire de Castelbajac. Il sera interrogé par Anne-Rose Jankovic. Et puis on partira découvrir une librairie dans les Hautes-Pyrénées, la librairie LibreOffice, qui se trouve à Bagnères de Bigorre. Au bout de 15 ans en tant que salarié dans une entreprise, Johanna et Adrien Levanier se sont reconvertis pour ouvrir cette librairie à Bagnères de Bigorre. Ils seront invités de Philippe Noni dans Un jour, un livre, un auteur. Au cœur de ce magazine également, c'est l'actualité avec à 12h30 le journal, mais pour le moment Victor Vignier, on le retrouve pour les titres à la une. Victor Vignier qui fait partie de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour, deux personnes blessées dont une grièvement près de Figeac à cause d'une route verglacée. La coordination rurale lève le blocage de la 75 et la RN88 en Aveyron. La cour administrative d'appel de Toulouse valide la construction de la 69 entre Castres et la Ville-Rose malgré les oppositions. Le maire sortant de Montclar de Quercy se représente aux élections 2026. Une mise aux enchères à partir de 408 000 euros pour l'ancienne aile de l'hôpital de Pamiers. Une aide de 516 000 euros pour les éleveurs de bovins du Gers touchés indirectement par la crise de la dermatose nodulaire. 30 avions Airbus commandés par une société chinoise de location.
Merci Victor Vignier, on vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. Victor Vignier qui fait partie de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Allez, 12h03, bon appétit avec Philippe Subercase, direction le Gers.
Présence à Axe-les-Thermes, 92.7.
Le comité départemental contre les violences intrafamiliales s'est réuni le 27 novembre dernier à la préfecture du Gers. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur les dispositifs existants, la réponse pénale et les projets destinés à mieux protéger les victimes. Je vous propose d'écouter l'interview de Clémence Meyer, procureure de la République, et de Chantal Desjean-Debeb, conseillère départementale en charge des familles, qui ont fait le point sur les différents axes de travail de ce comité. Ils sont au micro de Pauline Cazier.
Alors pour l'année 2025, le niveau des procédures de violence intrafamiliale reste malheureusement à un niveau relativement stable. Donc on a enregistré au parquet à peu près 400 procédures cette année de violence intrafamiliale. Ça reste pour le parquet d'Auch depuis maintenant de nombreuses années une priorité absolue de politique pénale. Donc on met tout en œuvre pour détecter ces phénomènes, pour une fois que les affaires sont en état, leur apporter une réponse pénale qui est une réponse pénale systématique et qui prévoit aussi de manière systématique la mise à l'abri et la protection de la victime par divers mécanismes de protection, que ce soit l'éviction du conjoint violent lorsque c'est possible, l'octroi de dispositifs de protection tels que les bracelets anti-rapprochement ou les téléphones grave danger, ou des ordonnances de protection qui sont prononcées au niveau civil par le juge aux affaires familiales.
Parler des différentes actions justement mises en place par le parquet, mais pas que. Est-ce que justement ces différentes actions ont permis de libérer la parole de ces victimes?
Il y a une meilleure libération de la parole peut-être.
On a observé ces dernières années une augmentation des dépôts de plaintes qui peut s'analyser effectivement comme une libération de la parole. Alors c'est toujours compliqué de savoir si on est face à une augmentation du phénomène ou à une augmentation de la parole des victimes, mais en tout cas on a mis en œuvre des actions, des conventions notamment pour permettre de favoriser le phénomène de détection, notamment en conventionnant avec quasiment tous les professionnels de santé du médical et paramédical pour que les signalements puissent aussi venir de ces professions.
Est-ce qu'on peut dire que ces violences intrafamiliales sont plus ancrées en milieu rural comme dans le département du Gers?
Je crois que c'est un phénomène qui touche absolument tous les milieux urbains, ruraux et aussi toutes les catégories socio-professionnelles de la population.
Vous avez une collaboration donc avec vraiment non seulement les forces de l'ordre mais beaucoup d'organismes comme le conseil départemental.
Tout à fait. C'est effectivement un domaine, les violences intrafamiliales, où la justice ne peut évidemment rien faire toute seule. Donc c'est le travail partenarial de l'ensemble des acteurs qui permet d'aboutir à une prise en charge globale de la situation de ces victimes pour que aucune violence dénoncée ne reste sans réponse, qu'elle soit pénale ou sociale.
Parler du téléphone grand danger, justement, quel bilan peut-on dresser de l'application de ce dispositif?
Alors, c'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien, le téléphone grave danger, donc on en a 30 dans le Gers. Au jour d'aujourd'hui, 24 bénéficiaires, 24 téléphones sont attribués à des bénéficiaires dans le Gers. C'est un dispositif qui protège directement puisqu'elles sont en lien direct par le déclenchement d'un simple signal avec une plateforme d'assistance. Mais au-delà de la protection physique immédiate, c'est aussi un dispositif qui permet d'avoir un accompagnement renforcé de ces personnes, donc qui sont les femmes en situation de danger le plus grave finalement dans le département puisqu'elles bénéficient de contacts extrêmement réguliers et d'entretiens très réguliers avec l'association d'aide aux victimes qui est en charge du suivi du dispositif.
Madame Depeppe, bonjour, vous êtes conseillère départementale. Vous étiez présente avec beaucoup de structures dont la justice, les forces de l'ordre pour ce comité départemental qui concerne les violences conjugales. Qu'est-ce qu'il a été dit ce matin, pour résumer ?
Ouais, c'était un comité très dense où il y a eu beaucoup d'interventions de la police, de la gendarmerie, des intervenants sociaux, etc. Et bien sûr la délégation aux droits des femmes. Pour notre part, au conseil départemental, nous avons les maisons départementales des solidarités qui sont de proximité, qui reçoivent les victimes qui le souhaitent après qu'elles aient reçu cette allocation que donne la CAF quand elles ont fait un dépôt de plainte. Nous intervenons dans les cofinancements, notamment du CIDFF à hauteur de 36 000 euros. Et de l'intervenant social à hauteur de 18 000 euros. Et nous avons aussi l'accueil en hébergement des femmes dont les enfants, ou des femmes enceintes, ou des femmes qui ont des enfants en bas âge. Donc nous les recevons à la maison départementale Enfance-Famille. Voilà, et donc dans des appartements à part, hein, où ils sont bien sûr accompagnés par les travailleurs sociaux. Donc après, on fait de la prévention, notamment auprès de 800 lycéens en 2024-2025. Par l'organisation de ciné-débats organisés par le centre sexuel de santé sexuelle du département, et ça a été très 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 intéressant. Il y a eu beaucoup de questions autour du consentement, autant chez les garçons que chez les filles. Voilà, donc ça c'était vraiment très intéressant.
Vous nous avez annoncé la sortie d'un livret sur le violentomètre, parce qu'il existe déjà un violentomètre. Mais là, il s'agirait d'un livret qui va sortir l'an prochain.
Alors c'est surtout, dans le violentomètre, c'est un petit comme une barrette. Hein. Ça, c'était pour les victimes, et donc ça a beaucoup de succès auprès de la population pour savoir où se situe, où on se situe dans l'agression ou dans la paix des relations amoureuses ou conjugales. Là, ça serait pour les auteurs. Donc c'est le conseil départemental de la Haute-Garonne qui l'a sorti. On va reprendre le même modèle, et en face des types d'agression et de la graduation des agressions, il y aura en face le type de sanctions ou pénales ou de sanctions que ça donne où ça donne lieu. Par exemple, ben, j'agresse verbalement ou j'agresse physiquement, ça donne des sanctions de temps d'amende ou de temps de privation de liberté, etc. Donc ce sera très utile. J'ai entendu dire que là où il a été mis en place au conseil départemental de la Haute-Garonne, il part très très vite et je pense qu'on essaiera, nous ici dans le Gers, de l'éditer en plusieurs langues pour qu'il soit accessible à toutes les populations de notre département.
Une dernière question. Pendant ce comité, il y a eu beaucoup de témoignages de la part des forces de l'ordre, de la part des structures. Est-ce qu'il y a, on constate une augmentation par rapport à 2024 des violences faites aux femmes?
Oui, on le constate en Occitanie, on le constate aussi un peu dans le Gers, effectivement. Dans les informations préoccupantes que nous avons, que recueille notre cellule d'informations préoccupantes du Conseil départemental, il y a une augmentation d'environ 11 situations supplémentaires. Donc on en était à 80 situations au lieu de 69 l'année d'avant. En même temps... On peut souligner que le travail est de plus en plus coopératif, de plus en plus productif et que, par exemple, alors je ne sais pas si c'est dû à l'ensemble des mesures qui ont été prises, mais on peut quand même constater que l'année dernière, il n'y a pas eu de féminicide, ce dont on ne peut que trouver que sans doute un signe aussi qu'à la fois, il y a une éducation de la population, une sensibilisation à la nature des relations qu'on doit avoir à l'intérieur des familles, qui doivent être apaisées pour le bienfait pour tout le monde. Voilà, je crois que c'est important.
Voilà, un instant, vous avez entendu Clémence Meyer, procureure de la République du Gers, et de Chantal Desjean-Debeb, conseillère départementale en charge des familles au conseil départemental du Gers. Et ils étaient tous les deux au micro de Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Radio Présence à Belmont-sur-Ance. 93.1.
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. À suivre dans un instant, nous serons avec Bernard Lotu, qui est le directeur de la maison d'édition Échua. Il nous présentera les ouvrages sur la vie de Claire de Castelbajac. Il sera interrogé par Andros Jankovic.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présent ce matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence.
Bonjour Bertrand Lotu.
Bonjour.
Bertrand Lotu, vous êtes le directeur de la maison d'édition Yeshua, une maison d'édition que vous allez nous présenter aujourd'hui, mais vous êtes avec nous dans cette émission cette semaine pour nous parler notamment de Claire de Castelbajac, une jeune femme du Gers dont vous êtes tombée sous le charme spirituel, je crois. Vous allez nous raconter tout ça. La vie de Claire, est-ce que vous pouvez nous présenter les ouvrages qu'il ne faut pas manquer pour plonger dans cette vie joyeuse de Claire de Castelbajac?
Bien sûr. Alors en fait, Madame de Castelbajac a écrit un premier livre en 1978, 3 ans après la mort de sa fille. C'est un livre qu'elle a écrit pour l'entourage familial et amical. En fait, on lui demandait autour d'elle de pouvoir compiler des souvenirs parce que beaucoup de gens avaient vraiment gardé un souvenir fort de cette jeune fille lumineuse. Et donc, elle a fait ça aussi par obéissance à son frère religieux Carme, et qui lui disait « Je te fais un devoir de compiler ces souvenirs ». Et donc, elle l'a fait. Évidemment, elle était dans le deuil et la tristesse encore, on imagine, mais en même temps, elle a fait ça avec beaucoup de simplicité. Et en fait, ce livre, ce premier livre historique, eh bien, il a dépassé très rapidement les frontières amicales et familiales. Et donc, c'est ce premier livre. Et puis, l'archevêque d'Auch, en 1983, a demandé à Madame de Castelbajac d'écrire un deuxième livre, un petit peu plus chronologique, un petit peu moins thématique. Et ce deuxième livre s'appelle « Vivre Dieu dans la joie, Claire de Castelbajac ». Il est très connu, ce livre, car il a déjà été vendu à plus de 20 000 exemplaires en langue française. Or, ces deux livres dont je viens de parler, ces deux livres historiques, si on peut dire, eh bien, étaient épuisés à la vente depuis des années. Et donc, je les ai réédités avec Yeshua Édition. Donc, il y a ces deux livres. Mais il y a eu aussi, vous parliez d'effervescence autour de Claire cette année. Alors, il y a un joli petit livre de Laurence Boeck, qui est une spécialiste de Claire, qui est sorti. Ça s'appelle « Moi, Claire de Castelbajac ». Et en fait, elle fait dire « je » à Claire. Laurence Boeck, c'est une jeune femme qui a été extrêmement touchée par Claire. Et on peut même dire qu'en fait, Claire l'a conduite au Christ. Donc, elle s'est convertie. Et elle est très imprégnée, évidemment, de tout ce que lui a apporté Claire spirituellement. Et donc, elle a été capable de faire dire « je » à Claire. Et donc, dans un livre plein d'énergie, très vivant, et qui est vraiment, comme on peut dire, une invitation bouleversante à vivre dans la joie de Dieu.
Et pour écrire ce livre, elle s'est vraiment plongée dans les moindres détails, j'allais dire, de la vie de Claire.
Alors, c'est en plus une historienne. Alors donc,
il y a un travail minutieux derrière.
Oui, exactement, un travail de recherche. Elle est allée dans les lettres même, les documents même. Enfin, voilà, un vrai travail. Donc, c'est un travail où, en fait, beaucoup de dans son livre. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles de Claire. Hein. C'est mes mises en scène bien, bien agencées pour que ce soit un petit livre agréable à lire et puis qui permette de découvrir Claire. Et puis, pour donner encore un aperçu, il y a les éditions de l'Emmanuel qui sortent un livre de Bénédicte de Lélis qui, dans la collection Témoins de l'invisible sur Claire de Castelbajac.
Comment vous expliquez, Bertrand Letus, cet engouement du grand public, j'allais dire, pour Claire de Castelbajac? Qu'est-ce qui touche le cœur des gens dans la vie de Claire? Est-ce que c'est cette joie? Est-ce que c'est ce message? Pour Claire, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui doit être joyeux. Alors ça paraît tout simple, ça paraît peut-être même évident. Et puis finalement, on s'aperçoit que, notamment quand on fait la neuvaine, que c'est quand même une révolution intérieure.
Oui. Alors en fait, je pense que ce qui touche est Claire. Alors on ne sait pas ce que dira l'Église, sa cause en béatification est actuellement à l'étude à Rome, donc on ne sait pas ce qui va en sortir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Claire, elle avait un grand désir de la sainteté, et ce qu'on voit chez Claire, c'est que en fait, les choses sont toutes simples. En fait, suivre le Seigneur, c'est pas forcément construire des cathédrales, partir au bout du monde ou se donner dans la vie consacrée. Mais suivre le Seigneur et chercher la sainteté, ben ça se fait dans le quotidien et aussi à travers les difficultés de la vie. Et Claire de Castelbajac, qui est donc décédée à 21 ans, en a connu. Elle a eu pas mal de soucis de santé pour finalement décéder d'une méningite foudroyante. Et en fait, au cœur de cette vie, avec ses joies, elle était à l'école, au collège, au lycée, elle a été étudiante. Elle a vécu la pension, elle a vécu aussi à la campagne, elle a eu des amis. Au cœur de cette vie toute simple, eh bien, on peut choisir de suivre le Seigneur, on peut choisir d'entrer dans la confiance de plus en plus dans le Seigneur, choisir d'entrer dans la joie de Dieu. En fait, Claire, elle avait sans doute un tempérament plutôt optimiste, positif, on dirait ça aujourd'hui, mais plus que ça, progressivement, elle est passée d'une joie, on va dire, naturelle, qui était dans son tempérament, à une joie proprement spirituelle. Et ça, elle l'a fait en choisissant le Seigneur. Mmh. Et elle a choisi par plusieurs façons. Déjà en travaillant sur l'émerveillement devant la création, l'émerveillement devant l'amour donné, reçu, partagé, et aussi avec le fait qu'elle a, sans être volontariste, elle a progressivement mis en place le sens de l'effort. C'est sa maman aussi qui l'a éduqué comme ça, choisir le bien, choisir le beau, choisir le vrai, voilà, choisir avec sa volonté. Donc il y a ça, et ça tout le monde peut le faire. Et puis aussi autre chose encore, c'est le sens du sacrifice et de l'offrande, le sens du sacrifice de ce qui est pénible à vivre, et ça elle l'a fait. Et aussi le sens de l'offrande, de ce qui serait agréable. Alors c'est parfois, on le voit enfant, elle se prive de petites choses qui lui feraient plaisir à elle, mais pour les offrir pour travailler sa volonté.
Et puis elle a aussi eu des périodes un peu de tumulte, peut-on dire, notamment lorsqu'elle était à Rome comme étudiante. Tout n'a pas toujours été facile, rose et évident pour Claire. Elle a eu des combats intérieurs.
Absolument, mais justement, en fait, le combat spirituel, elle l'a mené. voilà, elle a été attaquée, on peut dire. Oui. Ça n'a pas été toujours facile, mais elle l'a menée. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est toutes les bonnes fondations qu'elle avait construite avant, par une prière personnelle, par tout ce que je viens de vous dire, du sens du sacrifice, etc. C'est ça aussi qui lui a permis d'affronter, et elle a été bousculée sur ses bases, hein, c'est vrai, mais elle s'est pas effondrée parce qu'elle avait cela. Et donc, c'est aussi une invitation pour nous, dans notre vie de foi, à être bien fidèle à la prière, bien fidèle au sacrement, de travailler notre volonté aussi, sans être volontariste, vraiment laisser le Seigneur agir en nous. Pourquoi ? Parce que les tempêtes ne manquent jamais d'arriver, les difficultés, et c'est parce qu'on tient bon la plupart du temps, dans une vie plus calme, qu'on est aussi capable d'affronter ce qui est plus difficile dans la vie.
Voilà, et on voit que Claire de Castelbajac est un beau modèle pour la jeunesse, mais pas seulement, du coup, parce qu'on retrouve aussi en elle la spiritualité. Alors, à la fois un peu de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais aussi de Saint François d'Assise, avec cet amour de la création. Et ça, chacun peut se retrouver là-dedans, bien sûr. Hein.
Oui, absolument. Oui, ben, elle a eu la chance d'habiter à la campagne la plupart du temps. Et c'est vrai que les paysages, aussi les animaux, elle avait une véritable basse-cour à la maison. Tout ça lui a parlé aussi de l'intelligence de Dieu, de son génie créateur et aussi de son amour pour nous.
Yeshua Édition, c'est votre maison d'édition, Bertrand Le Thieu. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette maison d'édition ?
Ben oui, il y a quelques années, en fait, moi je me suis senti appelé intérieurement à créer une maison d'édition chrétienne, catholique. Voilà, au début, j'étais étonné par cet appel intérieur, et puis je le repoussais plutôt, parce qu'en me disant, il y a d'autres maisons d'édition, et puis bon, l'appel se faisait de plus en plus fort, et donc j'ai dit, Seigneur, j'y vais. Et le fait est que j'ai sorti un premier livre qui s'appelle « Pour que mon enfant ait la foi », un livre pour les parents et grands-parents, pour des enfants de 0 à 9 ans, et là, au bout de 10 semaines, j'ai dû réimprimer, alors que j'avais imprimé à 2000 exemplaires, ce qui était déjà un peu une folie d'imprimer autant, mais je voulais un prix unitaire acceptable, donc c'est pour ça que j'avais imprimé autant, et j'ai dû réimprimer. Et donc là, j'ai dit, ok.
Vous avez été conforté.
C'est bien présent, et donc c'est ça qui m'a aussi donné l'envie, le désir et puis l'acceptation pour continuer. Et c'est comme ça que j'ai pu publier d'autres livres, les bandes dessinées Sœur Marie Étoile, par exemple, voilà, qui ont beaucoup de succès. C'est une série BD avec une petite moniale qui est le héros, l'héroïne. Et puis aussi d'autres guides, par exemple 15 secrets pour se relier à Dieu, pour aider à plonger dans la vie intérieure.
Et donc, Yeshua Édition est né dans le Gers, là où vous vivez ?
Non. En fait, c'est né dans la région de Nantes où je vis. Mais de fait, vous parlez du Gers. Je suis assez lié à Claire de Castelbajac, spirituellement. En fait, moi, j'ai découvert Claire quand j'étais adolescent. Et puis, sa figure, son désir de sainteté m'a énormément parlé à l'époque, m'a aidé aussi à prendre peut-être de bons chemins, je crois. Elle a été vraiment présente. Et puis, quand j'ai rencontré mon épouse, ma future épouse, je me suis rendu compte qu'elle aussi était hyper touchée par cette figure spirituelle. Et voilà, on avait en commun Claire et puis aussi en commun de connaître l'abbaye de Boulors.
Donc depuis Nantes, vous êtes proche des sœurs de Boulors et de l'abbaye de Boulors.
Effectivement, tout à fait. Oui.
Merci beaucoup Bertrand Le Thieu. Donc je rappelle que vous êtes le directeur de la maison d'édition Yeshua Édition. Vous nous parliez aujourd'hui de Claire de Castelbajac.
Merci beaucoup.
Et merci aussi à Anne-Rose Jankovic, Anne-Rose qui a réalisé cette interview il y a quelques mois. Et merci aussi à Bernard Le Thieu, donc directeur de cette maison d'édition Yeshua. On va rester dans le domaine du livre avec dans un instant Philippe Nonni et ses invités. Au bout de 15 ans en tant que salarié dans une entreprise, Johanna et Adrien Levanier se sont reconvertis pour ouvrir une librairie dans les Hautes-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre. On découvre cette librairie dans moins de 5 minutes.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ses actions sur le terrain, donnez à donnez.catholique.fr.
Présence à Toulouse, 97.9.
En ce 31 décembre, je vous souhaite un bon appétit. Présence au midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avant de partir dans les Hautes-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre, découvrir cette librairie qui s'appelle Libre Office. Eh bien, on fait un point complet sur l'actualité régionale avec Victor Vignier, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Une route verglacée a provoqué un accident de la route faisant 2 blessés dans le Lot. C'est près de Figeac, lundi en début de soirée sur la RD19, qu'une Fiat 500 avec 2 personnes a fini dans le bas-côté après avoir perdu le contrôle. Cet accident a blessé 2 hommes de 19 ans, dont un gravement. Les 2 jeunes adultes ont été transportés à l'hôpital de Figeac. Levée des blocages sur l'autoroute 75 en Aveyron. La coordination rurale a fait cette annonce après avoir bloqué la route pendant près de 3 semaines. La levée des blocages se situe à Séverac-le-Château pour l'autoroute et à Baraqueville pour la RN 88. Les manifestations agricoles dans le département aveyronnais avaient entravé une dizaine de kilomètres de cette route. La construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse a bien été validée. C'est en tout cas la décision rendue par la Cour administrative d'appel de Toulouse hier. Le Conseil d'État va être saisi par le collectif citoyen La Voie est libre. Pour rappel, le collectif lutte contre ce projet de route sur 54 km pour des raisons écologiques. Jean-Paul Albert se représente aux élections municipales 2026 de Montclar de Quercy. Chef de la liste de l'Union communale, l'homme de 76 ans est maire depuis 2014 de cette commune du Tarn-et-Garonne. Il souhaite mener à leur terme des projets commencés des années plus tôt. L'aile de l'ancien hôpital de Pamiers est mise en enchère pour 408 000 euros durant le mois de janvier. Ce bâtiment de 3900 m² a eu divers usages, comme la plupart des services de médecine, excepté la chirurgie. Il a ensuite été transformé en EHPAD. Il est désormais désaffecté depuis 2021. Le bâtiment date de 1975 et est mis aux enchères par le groupe hospitalier de territoire qui en est le propriétaire entre le 22 et 24 janvier. L'État a octroyé depuis hier une aide de 516 000 euros aux éleveurs du Gers. S'ils ne sont pas touchés directement par la crise de la dermatose nodulaire, l'impact est économique. Pour rappel, les bovins du département ont vu leur mouvement se restreindre, donc les animaux n'ont pas pu être vendus et ont dû rester sur les exploitations, entraînant des coûts supplémentaires pour les éleveurs. Une société chinoise de location commande 30 avions d'Airbus. L'entreprise toulousaine a annoncé cette nouvelle hier. Ces 30 avions font partie de la famille A320neo. Cette société chinoise a commandé au total 282 Airbus depuis sa première commande en 2012, étoffant le nombre d'avions depuis avec 3 nouveaux achats au cours des années suivantes.
Merci à Victor Vignier, voilà, étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info sur notre antenne dans une demi-heure avec l'actualité nationale et internationale. Pour cela, eh bien, on sera en lien avec la réélection française de Radio Vatican. Les studios sont à Rome. Pour le moment, direction le département des Hautes-Pyrénées. On part à Bagnères-de-Bigorre avec toute l'équipe d'Un jour en livre, un auteur comme chaque mercredi. Bon appétit à l'écoute de Présence Midi.
Présence dans la vallée de la Garonne. 97.9.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Diego Arrabal.
Bonjour Philippe.
Début octobre, Diego Arrabal, nous étions au salon du livre pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre pour un direct.
Je m'en souviens pas.
Mais, vous avez oublié, hein, qu'est-ce que vous laissez lâche ça. Pour un direct mémorable, comme tous les directs effectués donc en ce lieu depuis 2015, et lorsque nous avons été sur place à l'issue de celui-ci, donc nous avons fait un peu le tour des stands et nous avons fait la rencontre d'une librairie qui tenait un stand sur le salon du livre pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre. Et puis, surprise, elle est située à Bagnères-de-Bigorre. Donc, il nous semblait incontournable de les inviter pour qu'ils viennent se présenter et qu'ils nous en disent un peu plus sur cette librairie. Bonjour, Johanna et Adrien Levanier.
Bonjour.
Vous êtes les propriétaires de la librairie papeterie LibreOffice à Bagnères-de-Bigorre. Présentez-nous un peu tous les deux votre histoire, parce qu'il s'agit d'une reconversion. J'ai lu donc un peu vous concernant, et celle du magasin que vous avez repris, qui est devenue une librairie papeterie. Qui commence de vous deux?
Je commence. Alors c'est Johanna. Avec le « je ».
Avec le « je », d'accord, Johanna, pas Johanna.
Mais c'est pas méchant, je sais qu'elle aurait répondu.
D'accord, ok.
Du coup, effectivement, on a repris le magasin existait déjà, a eu une histoire assez ancienne, puisqu'apparemment ce qu'on a appris, c'est qu'il avait été ouvert en 1940 à Bagnères, place de Strasbourg.
D'accord.
Et il a vécu plusieurs changements de propriétaire jusqu'à aujourd'hui, où là aujourd'hui c'est nous, et ça se trouve dans quelques années, ça sera, on verra plus tard. Du coup, nous, effectivement, c'est une reconversion. On a commencé tous les deux par faire de l'artistique, au niveau de nos études, très littéraire, très plutôt dans ce milieu-là.
Qu'est-ce que vous avez fait comme études, tous les deux?
Alors, moi, j'ai fait de la philo et du cinéma.
D'accord.
Et madame...
Et moi, j'ai fait l'histoire de l'art.
Ok.
Donc, et ensuite, il a fallu qu'on rentre dans le monde du travail. On a fait totalement autre chose. On a beaucoup travaillé avec des entreprises.
Comme souvent.
Ouais, exactement. C'est-à-dire que.
Et ce qu'on voudrait et ce qui arrive.
Exactement. Là, en l'occurrence, on est arrivé à ce qui arrive. On y a vécu 15 ans.
Oui.
Et au bout de 15 ans, on a décidé qu'il fallait qu'on revoie tout notre mode de vie. Et en 2022, on a changé de région, de métier. Et on a repris donc cette. Papeterie, parce qu'en fait la partie librairie avait été suspendue après le Covid, et on avait pour projet de la relancer petit à petit. Et la demande étant assez forte, puisque la librairie du centre-ville de Bagnères avait fermé vraiment de manière concomitante à notre arrivée, du coup on s'y est mis beaucoup plus tôt que prévu. Et une chose en enchaînant une autre, on a fini par ouvrir presque tous les rayons qu'on voulait ouvrir avec 3 ans d'avance.
Et les rayons que vous vouliez ouvrir, alors présentez-nous un peu la librairie, c'est quel type de rayon vous avez à l'intérieur de la librairie? Parce que je dis librairie papeterie, mais ça va certainement bien au-delà de ça.
Oui, parce qu'on a une petite partie, on a une partie beaux-arts aussi, parce qu'il y a une grosse demande aussi sur Bagnères, et il y a beaucoup d'artistes sur toute la vallée, donc c'est vrai qu'on a eu des demandes assez conséquentes par rapport à ça aussi.
C'est quoi, quel type de demande que vous avez?
Toute la partie, on va dire, peinture, aquarelle, à peu près toutes les techniques d'art plastique au sens large. Il y a une grosse activité sur place. Et on
adapte beaucoup l'offre en fonction de la demande, en fait. On est très à l'écoute des besoins des artistes.
D'accord.
On est rentré dans une dynamique même où des fois on va aller chercher des produits pour les faire essayer. On va aller, si
c'est-à-dire
jamais ça...
C'est quel type de...
Bon, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, on est parti en Espagne pour essayer de nouvelles aquarelles et de nouvelles techniques. Auprès d'un fournisseur qu'on connaît pas, on a ramené des échantillons et en fait leur objectif c'est de le faire tester aux artistes locaux.
D'accord.
Pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, les ressentis, en fonction de, on va dire, de la demande, des besoins, ben on peut mettre le produit en face. Donc là-dessus c'est une espèce de jeu qu'on a avec eux, parce que c'est vrai que c'est des produits qui évoluent très vite, c'est un marché qui est très amusant, parce qu'en fait il y a beaucoup de nouveautés et les réseaux sociaux aident ou être pas, ça dépend. ça dépend des jours. Et en l'occurrence, on essaye d'apporter un peu de, comment dire, de roulement sur sur les techniques. Là, par exemple, on a testé des nouveaux papiers, on a testé des nouveaux feutres,
des nouvelles gammes d'aquarelles, des nouvelles gammes d'acrylique. On essaye de trouver du qualitatif et de répondre vraiment aux besoins des personnes, en fait. Et après, quand il y a des produits un peu niches de qualité et qui ne sont pas mis en avant sur le marché ou les réseaux sociaux, on essaye de les mettre en avant aussi. Voilà.
Donc ça implique de s'asseoir et de les essayer. Donc...
Voilà. Ah d'accord, donc c'est vous aussi qui testez...
Ça nous arrive.
Ça nous... Souvent, souvent. C'est comme les livres, en fait, hein. C'est un peu pareil. Ouais. C'est-à-dire que si on veut savoir ce qu'il y a dedans,
il faut les lire. Il faut lire. On est bien obligé, effectivement, de les découvrir. Alors, justement, en parlant de livres, eh ben, on va parler un peu, hein, puisque vous êtes également donc une librairie. Alors, où est-ce que vous êtes situé exactement à Bagnères de Bigorre, pour celles et ceux qui
connaîtraient pas.
Voilà, qui connaîtraient pas, parce que, bon, comme je vous disais, on est diffusé sur toute la région Midi-Pyrénées, l'ancienne région Midi-Pyrénées. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent sur Bagnères. Ça peut être des curistes, ça peut être des touristes, ça peut être des skieurs, etc. Donc c'est quand même une population extrêmement vulgarisée, des gens qui peuvent venir pour les week-ends des arts de la rue, etc. Le salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre où on s'est vu, voilà, qui puisse savoir, parce que c'est vrai que vous êtes à l'entrée de Bagnères.
On est excentré, on est à l'entrée de Bagnères, en face de l'ancien parc Soulet, le parc industriel
d'accord.
de Bagnères de Bigorre.
Qui est sur la droite, donc en arrivant depuis Tarbes. À...
Voilà, exactement. Mmh. On arrive de Tarbes, on aura le parc Soulet sur la droite et nous serons sur la gauche.
Je t'en vis-à-vis.
Exactement.
Et sur la route de Tarbes, qui pour le coup dessert toutes les zones commerciales, enfin cercle là-dessus.
De Bagnères.
Ouais, voilà. Il y a la route de Toulouse, la route de Tarbes. Voilà. C'était l'une ou l'autre. Là, on est sur celle de Tarbes.
D'accord. Vous êtes où ? Quels sont les horaires d'ouverture ?
Alors, on va ouvrir un peu particulier, parce qu'on a fait partie des librairies pas ouvertes le samedi, mais par contre, on est ouvert le lundi à partir de 15h jusqu'à 18h30. Et après, on est ouvert tous les jours de 9h30 à midi et de 15h à 18h30.
D'accord. Donc, sur des horaires où les gens sont en train de travailler. D'accord.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est pareil. On a adapté les horaires Bagnères à un marché énorme qui attire beaucoup de monde.
Le samedi matin.
Et dans la mesure où on est excentré, on s'est rendu compte très vite que les gens étaient au marché. Tant mieux.
Ouais, et du coup. Et qui venaient pas, d'accord, ok.
Voilà, du coup, on les avait peu. Donc, ce qui fait que, par contre, on s'est rendu compte que toute la clientèle professionnelle, parce qu'avec la partie papeterie, on va faire tout ce qui est rouleau TPE, papier, tout ce genre de choses. Eux, par contre, avaient pas le loisir de venir nous voir, parce qu'eux travaillent le samedi. Donc, leur avoir laissé la plage d'ouverture le lundi, finalement, fait que c'est la journée, entre guillemets, professionnelle.
D'accord.
On a trouvé une bonne dynamique avec ça et en plus on fait un peu de livraison de temps en temps, donc sur le créneau entre midi et deux, en fait on en profite pendant que les entreprises sont ouvertes pour aller de temps en temps aller faire des livraisons aussi.
Vous travaillez avec les collèges et les lycées pour tout ce qui est commande de livres, oui. Vous savez, pour les...
École primaire, lycée et collège, oui, tout à fait.
Et on travaille également avec la médiathèque.
Oui.
De Bagnères
de Bigorre.
Et après on va faire du, comment dire, de on est beaucoup sur l'écoute, comme on disait, c'est-à-dire qu'en fait là-dessus, si par exemple un parent vient nous voir en disant voilà, j'ai besoin de Robinson Crusoe pour mon fils qui est en seconde, on va se dire bon, il y a Robinson Crusoe au programme. Si on voit le prof, on va pouvoir discuter de la version qui l'intéresse ou de la traduction, parce que des fois c'est assez intéressant qu'ils aient tous le même, et on va s'arranger pour l'avoir en rayon en quantité suffisante pour les rentrer.
D'accord.
Donc ça, c'est beaucoup de petites prises de notes et de discussions avec les gens. Exactement.
Bon, faut pas le mettre sur des papiers de bonbons, parce que sinon, si on perd les...
Exactement. Voilà.
Oui.
Ça, là-dessus, on fait pas.
Ça demande effectivement une grosse organisation. Sur la partie librairie, donc on va continuer notre découverte, de la librairie, donc, papeterie LibreOffice, donc à Bagnères de Bigorre, on rappelle, pour celles et ceux qui prendraient, donc, l'émission en cours, que vous êtes situé, donc, à l'entrée, de Bagnères de Bigorre, à l'ancien parc Soulet, donc c'est un gros parc industriel, donc on peut pas le manquer. Quand vous passez devant, vous tournez la tête à gauche et vous aurez donc la librairie. Sur la partie librairie, donc vous développez une partie littérature jeunesse, littérature adulte, des romans, des polars. Parlez-nous un peu de ce rayon, parce que c'est celui qui va nous intéresser dans un jour un livre, un auteur.
Dans notre cas, déjà, on fait majoritairement de la fiction. C'est-à-dire que si on prend nos rayons, je pense que, je ne vais pas faire des pourcentages, mais je pense qu'on doit être au moins à 90-95% de fiction. On va avoir un petit peu de rayons, on va dire, un peu écologie, un peu sciences sociales, mais en toute petite quantité.
C'est le même principe qu'avec la papeterie. On a découvert qu'il y avait un certain public qui était intéressé par ces questions-là. Et comme on a vu qu'ils étaient intéressés, ben on le développe. Et en fonction de nos connaissances aussi personnelles, donc on va creuser la question et on va chercher des ouvrages qui sont assez importants ou majeurs dans ce domaine-là pour les proposer. Et puis après, les personnes peuvent nous faire des commandes si ce sont des sujets beaucoup plus pointus.
Et on va se servir de leur prisme, quel que soit, on va dire, le style, pour organiser nos veilles littéraires. C'est-à-dire que quand on va avoir le programme des nouveautés des deux ou trois prochains mois, en fait, on va d'un côté choisir les livres en fonction de nos choix, et on va venir rajouter aussi des petites choses. Par exemple, si je sais que telle personne attend avec impatience ou très très fan de tel auteur, je me dis, bon voilà, je vais le prendre pour elle et je l'appellerai si jamais il arrive. Si jamais il y a un auteur qui est très suivi chez nous, qui a programmé une sortie, on va essayer de le mettre en rayon. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment s'organiser quand on va faire le choix de, comment dire, de respecter un peu tout notre cahier des charges qu'on se fixe au fur et à mesure ou qui inclut les goûts des clients, les nôtres. Et après aussi, ben, on se laisse surprendre parce qu'il arrive, parce que des fois, on voit des choses en littérature qu'on n'avait pas spécialement prévues et qui sont très intrigantes et qui donnent envie d'aller voir ce qui se passe, quoi. Notamment en jeunesse où maintenant on a, comment dire, c'est vraiment pour moi un des rayons qui a le plus évolué. Les illustrés et la jeunesse, c'est, je dirais, 20 dernières années, peut-être même plus.
Ça se renouvelle très très vite.
Et maintenant, on peut parler d'un principe que j'appellerais grand public. Parce que, en fait, la jeunesse, on a tendance à la compartimenter aux enfants. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des auteurs et autrices qui ont la particularité de s'adresser à un public beaucoup plus large. Parce que on va être sur des trames narratives complexes, on va être avec des personnages, on va dire, qui sont denses, riches, avec des belles psychologies, qui sont très accessibles pour les enfants, mais qui vont parallèlement être très intéressants pour les adultes aussi. Et cette littérature-là, on l'aime bien, parce que ça permet aussi, pour certaines personnes qui lisent moins, de raccrocher à la lecture, d'avoir quelque chose d'un peu plus accessible, plus facile. Et c'est du coup des rayons qu'on travaille beaucoup, ce qu'on appellerait, on va dire, moi j'aime bien le terme jeune grand adulte. Public.
Oui.
Vous faites aussi du jeune adulte.
Ouais. On fait du jeune adulte, on fait pas ce que l'on appelle de romance. Il y a des domaines que l'on ne maîtrise absolument pas. Le manga, la romance, on ne sait pas faire, donc on ne fait pas. Après, effectivement, on fait à la commande. Mais par contre, il y a effectivement des ouvrages de littérature jeunesse qui sont sur un âge charnière et qui peuvent parler...
ados et post-ados.
Voilà, ouais. Et qui vont retraiter de l'histoire, de grandes sagas familiales. Voilà.
Et qui peuvent servir aussi à l'entrée en lecture d'adultes qui ont perdu l'habitude de lire. Parce que c'est écrit gros, c'est écrit pour un public beaucoup plus jeune, donc c'est souvent plus accessible en termes littéraires.
Tout à fait.
Et il y a aussi un autre public, qui est le public des très très gros lecteurs. Qui, en fait, je vais pas dire se blasse, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais c'est qu'il y a des gens, on dirait, nous, on a des personnes qui viennent à la boutique qui ont une culture qui est tellement épaisse que de leur côté, ils cherchent la surprise. Donc effectivement, des fois, ils voient sur la table des nouveautés, je les ai déjà tous lus. Donc c'est vrai que le fait d'aller amener, on va dire, de la littérature un peu plus niche ou un peu plus particulière, On parlait de Rousse tout à l'heure. Ça fait partie de ce genre de choses, on va dire, de petits marchepieds pour changer. Et c'est vrai que ça ouvre d'autres horizons. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la littérature, c'est très très vaste et c'est de plus en plus bigarré. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait la science-fiction d'un côté, la jeunesse de l'autre, la littérature sérieuse. Maintenant, on peut avoir un roman de littérature sérieuse qui fait appel et qui vient convoquer un peu de science-fiction, qui va être parallèlement peu violent et avec des scènes très accessibles à un jeune public, donc ce qui fait que finalement il n'y a plus vraiment de barrière. Mais par contre, ça nécessite de les lire en entier parce que des fois il suffit d'une scène pour choquer un public, et ça, des fois, c'est un peu plus complexe.
Est-ce que vous avez un coup de cœur, là vous parliez de Rousse à l'instant, est-ce qu'il y a un livre là dernièrement que vous avez eu en librairie, que vous avez porté, que vous souhaiteriez présenter?
C'est un livre qu'on a amené sur le Salon du Livre Pyrénéen. Parce qu'en fait, cette année, le thème, c'était la migration. Et c'est vrai qu'à Bagnères, on a la particularité d'avoir notre confrère auprès de Pyrénées qui fait vraiment de la librairie pyrénéiste. Donc à nous, on a pris pour le principe de jamais faire de Pyrénées. Ce qui fait qu'en fait, on s'est posé la question de rajouter des œuvres en plus des auteurs qui étaient présents pour changer un peu et varier un peu. Et c'est vrai qu'on a amené, le thème étant la migration, on a amené Rousse, qui est un tout petit, ce que, on va dire, en anglais, ils appellent ça les short novels, quoi. C'est vraiment un petit roman.
Les petits romans, ouais.
Qui doit faire, je sais même pas s'il fait 200 pages. Et qui est écrit à travers les yeux d'une petite renarde, qui est amenée à migrer pour des raisons de ressources. Mmh. Donc, en fait, on était vraiment dans le thème du salon. Et c'est un livre que nous, on présente depuis un petit moment, qui vient juste de sortir en poche. Qu'un tout petit format et qu'a la particularité, vu que c'est vu à travers les yeux d'une renarde, c'est animal.
Donc c'est un livre, c'est une BD,
c'est un livre, c'est un roman.
C'est un roman, d'accord.
C'est
okay.
Un roman, tout petit roman, pas très épais, donc il ne fait pas peur.
D'accord, ok.
C'est important peur. Aussi.
Ouais. En livre de poche.
En livre de poche, il vient juste de sortir en poche, il a existé en maxi, mais là aujourd'hui il est en poche. Et là où c'est
Et l'auteur?
L'auteur, c'est Denis Infante.
D'accord.
Et qui vient juste d'en sortir un second. Et là, pour le coup, Rousse, pour lui, c'est vraiment le livre qu'on a conseillé à beaucoup de gens et qui a permis de recoller certains adultes à la lecture. Et parallèlement, ceux qui étaient fans de poésie aussi, y ont trouvé leur compte parce que dans sa manière d'aborder le monde, vu qu'il ne parle pas d'humain, il a une approche littéraire qui est très, 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 très particulière. Il va enlever les articles, par exemple. Qui vont pas forcément servir. Il va avoir une approche organique, une approche au ras du sol, une approche matérielle, ce qui fait qu'en fait, pour quelqu'un qui lit beaucoup, ça fait une pause. C'est-à-dire que c'est très agréable, ça change un peu, c'est un peu déroutant au début, et finalement, vu que c'est court, on s'y fait très bien, et vu que l'histoire, en plus, est sur une forme de transmission et de migration, on voyage et on grandit. Donc, il remplissait bien le cahier des charges de la reprise en main.
Alors, on rappelle le titre, Rousse.
Rousse, de Denis Infante.
De Infante, donc en livre de poche, que l'on peut trouver donc à la librairie Papeterie Libre Office, donc à Bagnères-du-Bigorre, hein, on rappelle, hein, à l'entrée de Bagnères-du-Bigorre en venant de Tarbes. Sur la droite, vous avez le Parc Soulé, ancien parc industriel, enfin même, il y a toujours des industries.
Toujours parc industriel.
Mais c'est plus l'entreprise Soulé.
C'est plus l'entreprise Soulé, voilà, on dit le Parc Soulé, ça a gardé effectivement le nom. Et juste en face, vous avez la librairie qui est ouverte du lundi.
15h jusqu'au vendredi 18h30.
Jusqu'au vendredi 18h30.
Et nous sommes ouverts les samedis durant les fêtes.
Aussi.
Et là,
Durant les fêtes de fin d'année, nous sommes ouverts le samedi ainsi que durant la période scolaire, la rentrée scolaire.
La rentrée scolaire, d'accord. Ok. Donc là, ça veut dire que vous allez être ouvert pour la fin de l'année, période dernière semaine de la semaine de Noël ou les semaines avant?
On va commencer
début la deuxième, décembre.
Ouais, début décembre. On n'a pas encore fixé, mais ça sera le premier ou le deuxième week-end de décembre pour permettre aux gens justement qui n'ont pas forcément le temps d'aller faire les courses de Noël, d'avoir un créneau supplémentaire. C'est ça que des fois.
Donc le matin, ça sera ouvert le matin.
Le matin et l'après-midi.
Donc on sera ouvert du lundi 15h jusqu'au samedi
18h. 18h, d'accord. Parce que dans la semaine, c'est 18h30. Donc là, ça sera
18h le samedi.
18h le samedi. D'accord. Sur la rentrée littéraire de janvier, vous disiez tout à l'heure, vous regardez ce qui arrive. On va être bientôt sur la rentrée littéraire. Alors la petite rentrée littéraire de janvier, mais qui est quand même une rentrée littéraire avec une centaine de livres. Bon. À mettre en perspective avec celle de septembre, hein, où on a à peu près 500 livres.
Ouais, 500 à peu près.
Celle de janvier est un peu moins. Est-ce qu'il y a un ouvrage, éventuellement, sur la rentrée littéraire de janvier déjà, parce que je sais que les livres sont arrivés là, donc dans les librairies.
Pas encore.
Alors là-dessus, il y a eu une grosse sélection en octobre en vue des fêtes. Donc ça là était vraiment. En fait, on a eu la rentrée littéraire qui était très très dense. Ça nous a fait à peu près plus de 7000 pages de PDF à consulter. La partie octobre, on préparait les fêtes. Là, on est un peu dans le creux, elles sont en train d'arriver.
Là, on est en train de recevoir. Les distributeurs sont en train de nous envoyer les ouvrages de la rentrée littéraire. Et on est en train de les sélectionner.
Okay. Ouais. On en a sélectionné quelques-uns en début de semaine. Mais là, pour l'instant, on va dire le vote est encore secret dans le sens où on n'a pas encore...
On n'a pas encore tout vu, on n'a pas encore tout balayé.
Là, je pense qu'à mon avis, le gros des dates va être pour fin novembre. Donc du coup, ça va être le projet de la semaine prochaine.
Une question pour celles et ceux qui nous écoutent, et notamment pour les auteurs et les auteureux. Vous allez organiser des dédicaces, des séances de signature avec les auteurs?
Alors, pour l'instant, on a répondu présent chaque fois qu'on nous l'a proposé. Parce que la médiathèque nous a proposé des signatures, le Salon du Livre nous a proposé également. Donc ça, effectivement, on va dire oui. En revanche, nous, à notre niveau, pour l'instant, on n'a pas encore franchi le pas. Pour plein de raisons, beaucoup de raisons notamment d'organisation. C'est ça, Claire Dorien, nous gérons la boutique à deux. Dans la mesure où on a la partie librairie, la partie papeterie, la partie beaux-arts, et aussi on a une petite partie service en termes de temps, le fait d'organiser une signature
sur place
en termes de logistique et d'organisation. Pour l'instant, on n'a pas encore le rythme. On a démarré, ça fait 3 ans. On espère pouvoir arriver à un stade où on va pouvoir se le permettre, mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour.
D'accord.
Mais par contre, on répond présent si jamais.
En partenariat pour des signatures en extérieur, à chaque fois on répond présent.
Alors, quand vous dites à l'extérieur, c'est-à-dire que quand vous organisez avec la médiathèque de Bagnères, c'est vous qui vous déplacez
Exactement.
Donc avec les livres. D'accord, à la médiathèque. Vous faites pas là. Et là, vous feriez pareil. Donc si jamais un auteur ou une auteure vous contactez, ça serait de faire, le cas échéant, donc une signature directement au sein de la librairie, ou est-ce que vous pourriez-vous dire, on pourrait la délocaliser au sein de la médiathèque parce qu'il y aurait peut-être plus de monde, etc.
On travaille en partenariat avec la médiathèque, donc eux ont leur réseau pour organiser des signatures, mais d'accord. Je pense que je ne voudrais pas m'engager pour eux, mais on peut sortir de la librairie pour faire des signatures.
D'ailleurs, on a même organisé toute la partie, informatique et technique. En fait, depuis le début, on s'est vraiment, vraiment beaucoup engagé pour le fait de pouvoir la mettre n'importe où. C'est-à-dire que dans l'idée, si demain on devait tenir un stand n'importe où, on serait capable de l'organiser.
Au Salon du Livre Pyrénéen, on était totalement autonome.
Oui.
Et en mesure
c'est comme
de
ça
travailler
vous avez sur un format nomade. En fait.
Exactement.
C'est-à-dire que là-dessus, oui, effectivement, ça peut être intéressant de pouvoir sortir des murs. C'est vrai que, je prends un exemple, alors après là, c'est pas du tout une idée, mais si... la partie librairie, il y a un côté pas forcément cosy. Si jamais il y a une signature, moi j'aimerais, si jamais... Alors après, c'est pas forcément dans les tuyaux, mais... pouvoir se sortir. Si là cette année pour le Salon du Livre, ils ont fait des lectures chez l'habitant par exemple, et apparemment ça a été très très apprécié, c'est ce genre de choses à réfléchir. C'est que le fait de sortir
des murs
et puis d'avoir une sélection plus courte, plus concise, plus dans le thème, ça peut être aussi des fois l'absence de choix, ça peut être reposant. Et nous on se rend compte que d'avoir des petits rayons, au final ça permet aussi au public de resserrer, de pas se perdre, de se dire je peux faire toutes les tranches, j'ai le temps. C'est ça que vous rentrez dans certaines librairies, vous dites faudra quelques jours pour faire toutes les tranches. Je vais faire une pause au rayon littérature jeunesse et je vais faire un pique-nique parce qu'après j'ai encore.
C'est vrai que quand il y a 7000 références dans des grandes librairies.
Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il en faut aussi. C'est-à-dire que c'est génial de se perdre nous-mêmes quand on se balade, on va se perdre aussi dans des grandes librairies.
Oui, mais c'est pas la même forme. C'est-à-dire que. On peut rentrer dans une librairie et se perdre dans la librairie, ou comme on se perdrait dans une bibliothèque comme dans Le Nom de la Rose, où on se perd, dans tout ça. Mais en même temps, trop de choix fait que on peut se dire mais qu'est-ce que je choisis, quoi. Trop de choix tue le choix aussi. Donc ça peut être l'effet inverse.
On est d'accord. Et nous là-dessus, en termes de maintenant, on a une dynamique aussi avec nos clients de discussion. C'est-à-dire que nous maintenant, on a des clients qui viennent nous dire bon voilà, je vous fais confiance. J'ai un livre pour ce week-end. Point.
Et là, on a la pression. On n'a pas le droit de se tromper, là.
Donc, du coup, ça, c'est amusant, parce que c'est une relation. C'est-à-dire que là, on est au-delà de la littérature. On
Il faut connaître la personne.
Exactement. Et alors, des fois, c'est amusant, parce qu'il y en a, on connaît leur goût, on sait qu'il y a des thématiques qui leur sont propres, et donc, on va leur dire, oui, là, il y en a un qui vient de sortir, qui pourrait rentrer dans le cahier des charges, puis il y en a d'autres.
On vous le met de côté.
Il y en a d'autres, c'est « surprenez-moi ». Ou « je n'ai pas d'avis sur la question » et du coup, on va proposer 2 ou 3 titres et ils vont s'orienter là-dessus. Mais c'est qu'on essaye de ne pas aller au-delà pour justement ne pas se perdre dans le choix.
Et nous-mêmes, c'est un véritable confort de ne pas avoir beaucoup de choix parce qu'à deux, on n'a pas de chef de rayon sur la jeunesse, sur le policier, sur la littérature française ou étrangère.
Il faut que vous soyez polyvalent.
On est polyvalent et du coup, ça restreint aussi pour nous le nombre de lectures à effectuer. On connaît mieux nos rayons, les sujets, etc., ce qui nous aide à conseiller les gens.
Ouais, c'est-à-dire que si quelqu'un passe la porte en disant « vous avez tel titre », je ne vais pas dire qu'on est capable de tête de dire si oui ou non, mais on a suffisamment de références pour trouver l'information rapidement. Alors que, et ça nous va. Parce que là-dessus, pour l'instant, il y a un côté, ça reste à taille humaine. Au final, on n'est pas du tout obligé de taper dans un moteur de recherche, avoir 15 occurrences et se dire lequel je prends parmi tout ça. Donc,
Bon, la librairie Perpétuerie LibreOffice à Bagnères de Bigorre. Eh bien, écoutez, on vous réinvitera, hein, parce que je pense que vous aurez certainement à l'avenir des événements à nous présenter. Donc, maintenant que vous connaissez la route,
c'est vrai. Venir,
c'est pas toujours facile la première fois, mais que vous connaissez la route pour venir donc au studio de Radio Présence. Eh bien, écoutez, on vous recevra avec grand plaisir, puis on vous reverra certainement l'année prochaine à nouveau au Salon du Livre Pyrénéen, donc de Bagnères de Bigorre. Mmh. On sera, puisqu'on fait un direct, hein, chaque année, Philippe Subercaz, Diego Arrabal et moi-même. Voilà, mon cher Diego, ce qu'on pouvait dire cette semaine.
Eh bien, on va se dire à la semaine prochaine,
et on se dit à la
pour
semaine
ne pas
prochaine.
Perdre les bonnes habitudes.
Exactement, tout voilà. À fait. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous d'être venu.
Et à bientôt.
Au revoir. À bientôt.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercaz. Don't you know you're
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Dernière audience générale de l'année pour le pape Léon XIV. Ce matin, place Saint-Pierre, le successeur de Pierre invite à tout remettre entre les mains de Dieu en se